Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, on l'attendait avec une certaine anxiété, on le redoutait, hein, le tout dernier rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale. Il annonce un nouveau coup de chaud sur la planète. D'après cette organisation onusienne, la période 2023-2027 sera la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre. Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Géopolitologue du climat et membre du GIEC, 2023-2027, la période la plus chaude, c'est pas vraiment une surprise pour vous?
Ah, c'est pas du tout une surprise. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette période? On va avoir évidemment l'augmentation continue des températures liées au réchauffement climatique, et à cela va s'ajouter vraisemblablement un phénomène El Niño, qui est un phénomène de réchauffement de la température de l'océan Pacifique, qui entraîne à son tour un réchauffement de la température atmosphérique. Et donc, il est certain que ces deux effets combinés vont provoquer des records de température.
C'est-à-dire qu'El Niño va remplacer la Niña, qui, au contraire, était plutôt un refroidissement de l'eau dans cette même période, dans cette même superficie du Pacifique.
Exactement. Ouais. Donc, El Niño et la Niña, ce sont deux phénomènes naturels, cycliques. L'un, El Niño, est un phénomène de réchauffement de la température des océans dans le Pacifique. À l'inverse, la Niña est un phénomène de refroidissement de la température de l'océan Pacifique. Et il y a une alternance des deux phénomènes. Comme je dis, ce sont des phénomènes cycliques, mais naturels, indépendants du changement climatique.
Ça dure combien de temps, à peu près, justement, ces phénomènes cycliques? El Niño, il va durer combien de temps?
Ah, on ne le sait pas à l'avance. C'est toute la difficulté, c'est que on peut prévoir statistiquement une probabilité d'occurrence qui va jusqu'à 80% cette année. Mais c'est un phénomène qui peut durer, soit en automne, voire même plusieurs années.
Alors les conséquences d'El Niño, ce sont des pluies diluviennes, ça peut être aussi des ouragans, ça peut être au contraire de la sécheresse, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ces conséquences sur la terre ferme.
Exactement, et sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que ce réchauffement de la température des océans, qui va entraîner un réchauffement de la température atmosphérique, va entraîner une multiplication de phénomènes extrêmes aux quatre coins de la planète. Donc ça va être ici des sécheresses, là-bas des inondations, là-bas des cyclones. De la même manière que le réchauffement de la température due au changement climatique provoque aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes extrêmes.
Certains craignent, François Gémen, un super Niño quelque part.
Oui, ça c'est possible. Il y a certaines années, on a le phénomène qui est plus important que d'habitude et qui donc évidemment exacerbe l'intensité des phénomènes extrêmes. Et effectivement, on redoute pour cette année un super El Niño, donc un phénomène plus important que d'habitude.
Le réchauffement de l'eau, justement, c'est quoi? C'est 2 degrés, 3 degrés?
Ça peut aller jusque-là à certains endroits. Ouais. On n'est pas du tout sur un réchauffement uniforme. Ouais. Donc, sur certaines zones de l'océan, on a des hausses qui peuvent être très importantes et qui sont à l'inverse moins importantes à d'autres endroits.
Évidemment, les conséquences pour les populations peuvent être terribles.
Oui, parce que ça va aggraver des phénomènes comme des sécheresses ou des inondations, et on sait que malheureusement ces épisodes sont assez meurtriers selon les endroits du globe où ils se produisent.
Le phénomène El Niño, on le prévoit pour le mois de septembre?
Septembre, octobre, peut-être même dès juillet, il y a une probabilité d'occurrence à 60% dès juillet. C'est un phénomène qui reste malgré tout assez irrégulier, qui se produit tous les 3 à 7 ans, et donc on ne peut pour le moment que prédire des taux de probabilité.
François Gémen, l'Organisation Météorologique Mondiale estime à 66% la probabilité que la température moyenne du globe dépasse les 1,5 degrés, donc les niveaux pré-industriels. Cela pendant au moins l'une des 5 prochaines années. Ne pas franchir ce seuil de 1,5 degré, c'était l'objectif de l'accord de Paris signé en 2015.
Hein. Ah oui, c'est certain. C'est l'objectif le plus volontariste de l'accord de Paris, qui avait été inscrit dans l'accord à la demande des petits États insulaires. Et effectivement, qui correspond malheureusement, il faut le dire, à un seuil que nous ne parviendrons plus à respecter désormais. On sait que même si je mets de côté El Niño, même sans El Niño, on atteindra ce seuil d'élévation de la température vers 2030-2035. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer malheureusement à un réchauffement climatique plus important que celui auquel nous nous étions engagés lors de l'accord de Paris. Et quand on a cet objectif de 1,5 degré qui continue à être important dans le débat public, et je continue à penser que ça reste un objectif important, mais il faut bien comprendre que c'est avant tout un marqueur de l'ambition politique, qu'on dirait zéro Covid en matière de politique sanitaire ou zéro mort sur les routes en matière de sécurité routière.
Mais je vous pose toujours la question à chaque fois que je vous vois, est-ce que vous avez l'impression que ça bouge, que ça avance, que les politiques prennent conscience d'un certain nombre de problèmes, que même les populations prennent conscience de ce réchauffement climatique?
Oui, j'ai l'impression que ça bouge et que ça avance. Alors je ne veux pas être outrageusement naïf ici ou d'un optimisme béat, mais très clairement, moi, je vois des choses qui avancent et qui bougent dans la société. C'est d'abord une prise de conscience, je crois, à tous les étages, de la réalité du changement climatique. Il faudrait désormais vivre dans une grotte pour ne pas réaliser les impacts du changement climatique. Et puis, je vois toute une série de décisions, parfois très courageuses, parfois très radicales, dans la part de certaines collectivités, dans certaines entreprises également. Il y a encore beaucoup, je dirais, de gens qui rament à contre-courant, mais il y a également beaucoup de gens qui font bouger et qui font avancer les choses. Et c'est pas uniquement le cas en France. La semaine dernière, par exemple, le gouvernement indien a annoncé qu'il renonçait à sa politique de construction de nouvelles centrales à charbon à l'avenir, parce que les énergies décarbonées sont devenues moins chères en Inde. C'est aussi une nouvelle positive qui va dans le bon sens. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a des choses qui avancent. Maintenant, il reste un poids très très fort des énergies fossiles qui continuent à représenter à peu près 85% du mix énergétique mondial. Il y a des investissements dans les énergies fossiles qui continuent à être très importants. Et le problème, c'est qu'on joue sur les deux tableaux, qu'on investit beaucoup dans les énergies décarbonées, notamment dans les énergies renouvelables, il faut pouvoir le dire, mais on investit encore beaucoup dans les énergies fossiles. Et il faut choisir, parce que vous ne pouvez pas, lors de PSG-OM, vous ne pouvez pas soutenir le PSG en première mi-temps et puis changer de tribune et soutenir l'OM en deuxième mi-temps. Ça ne marche pas, on comprend bien que les deux s'annulent. C'est pareil si vous investissez dans les fossiles et dans les renouvelables.
On voit que l'Italie, notamment la Calabre et le nord de la Sicile, sont frappés par des pluies diluviennes, phénomène d'une rare violence. Est-ce que ce type de phénomène, on peut l'imaginer en France assez prochainement ?
Absolument. J'irais même que je ne vais pas m'engager sur une probabilité, mais c'est évidemment un phénomène qui peut toucher la France dès cet été, dès cet automne. Et malheureusement, ces inondations risquent aussi d'être meurtrières en France parce que nous sommes en retard sur les politiques d'adaptation.
On est à plus de 9 morts en Italie pour l'instant, qui est un bilan provisoire.
Voilà, c'est-à-dire que même dans des démocraties modernes, dans des pays industrialisés avancés, on a ces phénomènes extrêmes qui continuent à provoquer une mortalité importante, alors qu'il y aurait moyen de réduire cette mortalité. On ne sait toujours pas en France comment on fait pour évacuer les populations, pour les prévenir par SMS. Et donc, on a un gros retard en matière d'alerte précoce et plus généralement en matière de politique d'adaptation. Or, il faut prendre conscience que nous sommes désormais touchés aussi par ces impacts. Et donc, si on continue à vivre dans une sorte de bulle d'invulnérabilité, forcément, ces impacts vont provoquer des morts.
En France, la question qui se pose, c'est la sécheresse. Le gouvernement a publié un guide sur la consommation d'eau, un guide pour les préfets sur les restrictions d'eau. Ces restrictions, c'est une évidence pour les semaines à venir. Plusieurs départements, plusieurs dizaines de départements seront touchés par ces restrictions.
Alors, c'est une évidence pour les semaines à venir, très clairement. Mais il faut réaliser que ce sont des mesures d'urgence et que ce sont des emplâtres sur des jambes de bois. C'est-à-dire que, autant je trouve que le plan eau qui était présenté le mois dernier par le gouvernement est un plan relativement ambitieux, qui couvre plusieurs domaines, qui pose la question de la répartition des usages, autant ces mesures de restriction ne suffiront pas. Elles serviront juste à passer l'épisode, mais sur le long terme, il va falloir véritablement une vraie question sur la manière dont on va allouer une ressource qu'on pensait jusqu'ici infinie et surabondante et qui va se trouver de plus en plus limitée.
Repenser notre rapport à l'eau, en fait, François Gemmell.
Bien entendu, c'est-à-dire penser que par rapport à toute une série de ressources, c'est le cas de l'eau, c'est le cas aussi des terres et c'est évidemment le cas du carbone, c'est-à-dire on pensait qu'on pouvait utiliser ces ressources sans limitation, et bien d'un coup nous nous heurtons au fait que ces ressources deviennent de plus en plus rares et donc de plus en plus limitées.
Merci François Gemmell d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes. Je rappelle que vous êtes géopolitologue du climat et membre du GIEC. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, et un hommage au roi du swing manouche, son nom dans une poignée de secondes, mais je pense que vous l'avez déjà trouvé. Il est 7h49.